Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Dimanche, les habitants de Hong Kong découvrira qui remplacera à partir du 30 juin Carrie Lam, la chef de l'exécutif de l'île qui a indiqué mettre un terme à sa carrière. Il faut dire que le mandat de Carrie Lam fut tumultueux, marqué par les immenses manifestations pro-démocratie en 2019, suivi d'une vaste répression de Pékin et d'une politique zéro Covid qui isola Hong Kong des autres centres d'affaires de la planète. Au terme d'un processus tout ce qu'il y a de plus éloigné de la démocratie, un comité de 1500 personnes, toutes acquises au régime de Pékin, désignera le nouveau dirigeant de Hong Kong. Ce collège électoral, qui représente 0,02% des 7 400 000 habitants de l'île, devrait choisir John Lee, un ancien policier, tout à fait en phase avec les autorités de Pékin. Hong Kong est-elle définitivement moins libre et inégalitaire, et a-t-elle perdu son aura internationale au cours des 5 ans de gouvernance de Carrie Lam? Eh bien, pour en parler, nous sommes ce matin avec Eric Sautedé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur indépendant rattaché au Centre d'études français sur la Chine contemporaine de Hong Kong. Alors, pour comprendre ce qui se joue à Hong Kong depuis des années, il faut que vous nous rafraîchissiez un peu la mémoire. Dans quel contexte Carrie Lam, donc, qui va connaître son successeur dimanche, cette future ex-chef de l'exécutif de Hong Kong, elle avait été élue en 2017 et quels espoirs elle avait pu susciter à l'époque ?
Les espoirs, ils étaient importants parce que le précédent chef de l'exécutif, donc Tsai Wai-lung, était extrêmement populaire. Et d'ailleurs, on ne pensait pas qu'un chef de l'exécutif, puisse être plus impopulaire que lui. Et donc, il n'avait pas pu se représenter pour un deuxième mandat. Il avait décidé de renoncer. Et donc, Carrie Lam s'était présentée. Elle était à l'époque la numéro 2 de son gouvernement. Certaines personnes disaient déjà que c'était en fait une Tsai Wai-lung un petit peu déguisée, qu'elle pourrait être une Tsai Wai-lung 2.0, comme on le disait à l'époque. Donc, c'était pas non plus l'enthousiasme absolu. Mais, de toute façon, c'était tout sauf CY. Donc, elle incarnait quand même un certain espoir, d'autant que son slogan de campagne était We Connect, hein, Trongsin, en chinois, donc avec l'idée qu'on allait agir, on allait recoller les morceaux de la société, parce que avant 2019, on avait déjà eu le mouvement des parapluies en 2014, au moment d'ailleurs pendant lequel Carrie Lam elle-même avait essayé de jouer un rôle de médiateur, et elle avait échoué.
Alors Carrie Lam, en fait, au début de son mandat, elle s'est vite retrouvée tiraillée entre ces deux maîtres, comme elle a elle-même présenté la Chine et le peuple hongkongais. En 2019, elle a soutenu le projet de loi d'extradition vers la Chine de personnes soupçonnées de mener des activités jugées criminelles par la Chine. Quel souvenir laissera-t-elle aux hongkongais et quel héritage elle laissera dans l'histoire de l'archipel ?
Bon, un souvenir vraiment détestable, hein, parce que sa cote de popularité va en fait plonger dès mai 2019 en dessous de celle de Tsai Wai-lung. Et ensuite, elle va rester à l'étiage pendant toute la fin de son mandat, y compris bien sûr maintenant, où elle est à 20% d'approbation, hein, ce qui est vraiment extrêmement bas. Personne n'est arrivé aussi bas. Donc de toute façon, elle est vraiment détestée, moquée en permanence, et personne ne pense ici qu'elle est bonne à quoi que ce soit. Même d'ailleurs, les gens qui étaient dans le gouvernement, ou le comité, ce qu'on appelle le comité exécutif aussi, qui est une sorte de comité des sages qui donne, qui fait des suggestions au gouvernement avec lesquelles elle a un meeting tous les mardis. Certains membres déjà de ce comité s'étaient dissociés de sa politique, avaient émis des critiques, etc. Donc de toute façon, son bilan est extrêmement négatif. Elle a échoué sur toute la ligne, et le fait qu'elle ne puisse pas se présenter pour un deuxième mandat montre bien que de toute façon, elle n'a pas réussi à servir ni le peuple de Hong Kong, ni effectivement le maître de Pékin, comme elle l'avait dit en août 2019, puisque Pékin a décidé de choisir un candidat ou une personne, puisque difficile de dire un candidat quand il n'y a qu'un candidat pour une élection, mais une personne pour la remplacer qui est, parfaitement loyale et parfaitement dans les clous.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Eric Sautedé, c'est que effectivement, c'est aussi l'opinion des dirigeants à Pékin qui est tout à fait contre Carrie Lam. Ils sont furieux qu'elle ait fait de la publicité aussi négative sur Hong Kong d'une certaine manière.
Alors, il y a cet élément-là. C'est toujours difficile, hein, de savoir exactement ce que pense Pékin, parce qu'il laisse assez peu filtrer de choses. Et puis, le message quand même général, c'est qu'en dépit des troubles qu'il y a pu y avoir en 2019 ou en 2014, la formule « un pays, deux systèmes » est un succès. D'ailleurs, même le manifeste, la plateforme là, de John Lee pour son futur mandat, insiste sur le fait que c'est un succès, qu'il n'y a absolument pas de questions à se poser à ce propos. Oui. Donc, bah, c'est difficile, hein, c'est difficile de dire ils sont furieux contre Carrie Lam. Ce qui est clair, c'est qu'ils ne lui font pas confiance pour mener ou pour continuer à diriger Hong Kong pour les 5 années à venir.
Vous avez cité effectivement ce qu'avait dit l'ex-président chinois Deng Xiaoping lors de la rétrocession de Hong Kong par la Grande-Bretagne à la Chine en 1997. Un pays, deux systèmes. Que reste-t-il justement à Hong Kong de cette fameuse formule ?
Alors, il reste quand même des choses. C'est-à-dire que moi qui ai connu Hong Kong, je suis arrivé à Hong Kong en 94. Très honnêtement, le Hong Kong que j'ai connu ces presque 30 dernières années, il n'existe plus. Ça, c'est clair. Donc, c'était avant un havre de paix, un lieu de rencontre absolument extraordinaire où on avait aussi des chercheurs chinois qui venaient du continent. On pouvait parler d'un tas de choses. Il y avait c'était un lieu de rencontre. Et puis, c'était surtout un lieu dirigé, enfin, orienté vers le monde et vers le, donc, qui connectait d'une certaine façon la Chine et le monde. Alors, la Chine s'est beaucoup plus ouverte après, donc il y avait beaucoup moins besoin de Hong Kong, mais Hong Kong restait ce lieu très exceptionnel, unique, qui n'a vraiment absolument aucun équivalent en Chine. Donc tout ça, c'est quand même en train de complètement disparaître, parce que on est de plus en plus comme Shanghai, comme Canton, comme Pékin. La seule différence, c'est qu'on a quand même un petit peu encore les médias libres, on a encore une justice à peu près indépendante, on a encore des administrateurs, des fonctionnaires qui ont une idée du service public qui n'est pas soumise au diktat d'un parti, mais qui est plutôt pour le bien commun. Donc on a quand même quelque chose qui on a encore un héritage, mais il est de plus en plus attaqué, de plus en plus menacé, et c'est clair que Hong Kong qui existait jusqu'à présent a disparu.
Ouais, mais vous voulez dire qu'il y a une opposition pro-démocratie peut encore se mobiliser à Hong Kong ?
Alors, à l'heure actuelle, non, parce que tous les démocrates, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil, soit ils se taisent, en attendant d'être éventuellement mis en prison. Donc, de toute façon, il n'y a absolument aucune voix qui s'élève. En revanche, il y a, par exemple, je l'ai vu, j'ai assisté à plusieurs jurys, enfin, plusieurs cas dans les cours, etc., de gens qui étaient poursuivis, justement, pour avoir semé des troubles, etc. Et on voit quand même que la justice a à cœur, dès le premier niveau, d'ailleurs, dès les cours de première instance, d'être dans l'état de droit. Et de conserver quand même une rigueur et une intégrité par rapport à l'état de droit. Donc il y a quand même encore des choses. Ce qui n'est pas tellement le cas quand même en Chine, où par exemple le judiciaire est largement soumis aux politiques.
Est-ce qu'on peut savoir à peu près quantifier le nombre de gens qui ont fui Hong Kong parce qu'ils avaient la chance d'avoir un passeport qui leur a permis d'émigrer en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et ouais. Combien sont-ils ?
Alors, c'est difficile de donner un chiffre précis. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, en février, alors ça s'est combiné avec la cinquième vague de Covid, hein, qui a été assez terrible ici, puisque d'un seul coup, on a eu beaucoup de morts, alors qu'on n'avait pratiquement pas eu jusqu'en décembre 2021. Mais en février et mars, on a eu 70 000 personnes qui sont parties par mois, donc 140 000 personnes. Si vous rapportez ça à la population de Hong Kong, net, hein, si vous rapportez ça à la population de Hong Kong, 7,4 millions, c'est quand même très significatif. On a aussi des gens qui ont bénéficier d'une immigration rapide vers l'Angleterre ou vers l'Australie. Les démarches ont augmenté, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers notamment pour les Anglais. Donc avec ce processus qui a été mis en place, qui donne la possibilité aux détenteurs du British National Overseas Passport, donc un passeport qui avait été mis en place au moment de la rétrocession, d'obtenir la nationalité anglaise au bout de 5 ans.
Mais c'est un passeport qui n'est plus délivré aujourd'hui, on est bien d'accord.
Alors, qui n'est plus délivré et surtout qui a été rendu illégal et interdit par la Chine et par Hong Kong. Donc, c'est-à-dire que les gens ici ne peuvent pas sortir ce passeport pour sortir. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est partir de Hong Kong et puis, à l'arrivée en Angleterre, de toute façon, les démarches sont faites avant, s'installer.
L'ironie du sort, c'est que visiblement, Carrie Lam pourrait peut-être, elle, grâce au passeport de son mari et de ses enfants qui ont des passeports britanniques, pourrait quitter Hong Kong. C'est ça, Eric Sautonné?
Alors, elle est quand même sous le coup de sanctions, hein. Donc, elle est interdite bancaire, etc. Donc, Ça va être compliqué. Je pense que à l'heure actuelle, puis ce serait de toute façon quand même un sacré camouflet par rapport à ce qui vient de se passer, parce que ça montrerait que les gens, enfin surtout les personnes en responsabilité, font ce qu'on leur dit de faire et disent aux gens de faire comme ils doivent le faire, mais eux font exactement le contraire, c'est-à-dire votent avec leurs pieds. Donc ça me semblerait quand même assez improbable, d'autant qu'elle a renoncé à sa citoyenneté elle-même anglaise pour devenir chef de l'exécutif.
Un mot quand même sur le successeur, donc vraisemblable, absolu de Carilla, mais il s'agit de John Lee, qui est un ancien chef de l'appareil sécuritaire de Hong Kong. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'il pourrait faire à la tête de Hong Kong?
Oui, bah c'est oui, donc c'est ça. Il a fait toute sa carrière dans la police, hein, dès le départ des années 80. Donc c'est bon, il a été le chef. Alors l'appareil de sécurité, hein, c'est la police, hein, et c'est pas la peine non plus de lui donner un ton trop menaçant. Mais il a été donc effectivement le chef de la police. Il a été le secrétaire à la sécurité, ce qui correspondrait à notre ministre de l'Intérieur en
Enfin, c'est
France.
quand même lui qui a réprimé les manifestations pro-démocratie de ces dernières années.
Oui, bah bien sûr. Et puis c'est lui qui a donné un mauvais nom, enfin qui a donné une mauvaise réputation à la police à partir de 2019. La police d'Hong Kong était extrêmement appréciée par les Hongkongais jusqu'à juin 2019. C'est après cela, effectivement, et après les abus, et il n'a pas su, disons, mettre en place un système qui aurait permis de poursuivre la police pour les abus. Donc c'est bien sûr, il a une responsabilité à ce niveau-là, mais c'est avant tout, disons, c'est un homme de la sécurité, ça c'est évident. Et donc on voit, et l'objectif, ou disons la priorité de Pékin étant la sécurité politique, hein, depuis le milieu des années 2010, il est bien évident qu'il correspond à un agenda très pékinois. Mais bon, après, moi, le seul élément positif, c'est, hein, si je pouvais le sauver d'une phrase, c'est de dire que quand même, en étant en charge et en s'occupant des histoires de sécurité et de police, il a été aussi très proche de la police en Chine, de la police aussi à Taïwan, hein, pour tout ce qui est trafic, etc. Il faut une collaboration entre les polices, avec Macao aussi. Donc il a peut-être plus de connexions et plus de points d'accès avec aussi les autorités chinoises que ne l'avait Carrie Lam, qui était d'une certaine façon une super chef de province, mais qui n'a jamais eu un accès privilégié aux autorités chinoises.
John Lee, hein, qui succédera donc vraisemblablement à Carrie Lam à la tête de l'exécutif de Hong Kong à partir du 30 juin. Son nom devrait sortir officiellement dimanche. Merci beaucoup Eric Sauteudet d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur la situation à Hong Kong. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant rattaché au Centre d'études français sur la Chine contemporaine de Hong Kong. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
France Culture. L'esprit d'ouverture.